pas tellement, mais je voudrais donner peut-être un petit point d'histoire. Quand la crise des dettes souveraines est apparue en 2011, certains ont voulu absolument crédibiliser la monnaie, c'est-à-dire l'euro, et donc limiter l'importance des dettes publiques. C'est l'Allemagne et la Hollande qui ont porté ce combat, alors qu'on rentrait en période de récession, et donc il fallait augmenter les dépenses publiques. C'est la monnaie qui a gagné sur le capital, sur le travail, pardon, et donc la doctrine qui en a été établie est qu'il fallait absolument revenir à l'équilibre budgétaire.
Oui.
Est-ce que c'est possible?
On a vu que ça a pas mal réussi dans ces pays-là. Hein. Les Pays-Bas se portent pas mal, l'Allemagne
oui.
aussi.
Ça a bien réussi dans les pays du Nord, un peu moins dans les pays du Sud. La véritable question est de savoir si on peut véritablement, et à court terme, réduire les dépenses publiques, et je ne crois pas. Parce que nous rentrons dans un contexte particulier de vieillissement de la population, avec des dépenses en matière de pension qui ne sont pas financées, et parce que le contexte de croissance économique est morose. C'est vrai qu'on a une croissance d'à peu près 2%, mais c'est faible. Et l'Europe, bizarrement, impose des contraintes de retour à l'équilibre budgétaire, alors que structurellement, ce n'est peut-être pas souhaitable, et qu'en plus, aujourd'hui, les États peuvent emprunter à un taux d'intérêt qui est plus bas que le taux de croissance de l'économie.
Pour l'instant, mais enfin, si ça se retourne et qu'on s'endette beaucoup, on risque de le payer, non?
Bien sûr, mais ce n'est pas le cas maintenant, et on ne voit pas les taux d'intérêt monter. C'est d'ailleurs pour ça que les États imposent des taux d'intérêt très bas à la Banque Centrale Européenne. Et d'autre part, ce qui est assez particulier, même si c'était légèrement amendé, c'est que les États ne peuvent pas s'endetter pour des dépenses d'infrastructure. Et donc, investir dans son propre pays est contraint par des règles européennes. Donc moi, je dirais que réduire les dépenses publiques est peut-être nécessaire à long terme, mais peut-être moins facile ou possible qu'on l'imagine à cause de ce contexte, notamment de vieillissement
D'accord.
de la population.
Et en tout cas, de votre point de vue, si je comprends bien, pas nécessairement maintenant. Il ne faut pas accélérer le rythme de ces dépenses publiques, enfin la limitation de ces dépenses publiques maintenant.
Certainement pas, parce qu'il n'y a pas d'effet boule de neige, parce que les taux d'intérêt sont bas et que la croissance est plus importante que les taux d'intérêt.
Alors, du point de vue du PTB, David Pestiot.
Bah, ça pose un problème à partir du moment où ça dépend qui paye cette dette. Dire si les taux d'intérêt sont élevés et que donc ça grève les dépenses publiques, ça c'est vraiment un problème. Mais pour revenir à la question de l'endettement et de la sortie de Weaver, De Weaver a dit qu'il fallait s'attaquer à la dette et qu'il fallait donc le seul endroit où il fallait taper, c'est la sécurité sociale. Et là, on voit vraiment, je pense, que c'est un prétexte. Parce que si vous regardez, d'abord, hein, cette dette a été creusée en Belgique. Comme on l'a dit en 2008, hein, donc on a transféré la dette des banques, on a sauvé les banques et on l'a transférée aux États.
Elle était déjà ça, très c'est... forte avant, hein, mais elle était
très forte, mais on était à 85%, ouais. On a 105, on est entre 105 et 102 maintenant. Donc ça, c'est un premier aspect. Donc d'abord, il faut savoir l'origine de cette dette. On a sauvé des banques privées avec les dépenses publiques et on a eu évidemment les effets de la crise qui ont augmenté cette dette. Et deuxièmement, et c'est ça qui est quand même très particulier, il y a une étude récente qui a été révélée par le journaliste De Tête il y a un mois, qui dit qu'en gros, l'essentiel de l'effort budgétaire les efforts qui ont été faits ont servi en fait principalement au tax shift. Le reste a été résorbé, le déficit a été résorbé par les taux d'intérêt relativement faibles dus à la politique de la Banque centrale et par le contexte économique international qui n'était pas dû à la politique belge. Et donc on voit qu'en fait on nous a vendu de l'austérité, plus de 8 milliards d'austérité, on a fait le saut d'index, on a allongé les carrières, on a touché les services publics, la sécurité sociale, mais qu'en réalité ça n'a pas servi à réduire fondamentalement le déficit, mais à payer le tax shift, et essentiellement un tax shift qui bénéficie D'accord. aux plus riches et aux grandes entreprises. Et donc oui. là, on voit...
Mais depuis que je suis... En termes d'assainissement et de la dette, par exemple, parce que c'était la question que je vous posais, je comprends bien que vous ne suivez pas la logique du tax shift, etc. Mais est-ce que la dette et un niveau d'endettement très élevé, c'est un problème ou pas pour vous, David?
Je pense que ça pose un problème à partir du moment où ça retombe sur les gens.
Donc la dette toujours sur les gens.
Non, mais sauf si on fait un impôt exceptionnel sur la fortune et qu'on fait descendre comme on l'a fait à certaines périodes en Belgique. Donc il y a eu des moments en Belgique où on a fait réduire le déficit de manière conséquente. Or on a fait exactement le contraire. On a fait peser l'effort essentiel sur la population et ça a aggravé les problèmes. Donc je trouve que l'exemple des banques, je vous rappelle qu'on a privatisé les banques dans les années 90. En raison de la résorption de la dette pour aller vers l'euro. Puis, 15 ans plus tard, on s'est retrouvé avec ces banques qui étaient quasiment en faillite, Fortis, Texia, etc. Et puis, on a dû encore faire un effort. Et donc, je crois que pour les gens qui ont maintenant 50 ans, ils n'ont entendu que ce discours de remboursement des déficits. On a l'impression d'être dans un, comme Sisyphe, toujours en train de rembourser cette dette,
ouais.
Et toujours de faire des efforts, et cette dette ne voit pas le jour. Donc, bien sûr, on doit s'attaquer à la dette, mais il faut savoir comment.
D'accord. Bruno Coleman, vous êtes économiste, je le disais, vous êtes aussi banquier, hein, par ailleurs, vous êtes chez De Groof Petercam. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse de David Bestiou ?
Mais rien de bon, parce que le caractère confiscatoire du capital du PTB émerge rapidement à la surface. D'abord, M. Bestiou, que je respecte néanmoins, émet une contre-vérité. La dette publique n'a pas du tout augmenté à cause des sauvetages bancaires. D'abord, ces banques vont être revendues, c'est le cas de Belfius et ce sera un jour le cas de la participation dans BNP. Ce qui a augmenté la dette publique, c'est le financement de la crise, c'est-à-dire moins de recettes fiscales et plus de dépenses fiscales.
Donc, c'est l'impact que la crise a eu.
Voilà, bien sûr, mais c'est donc dans un souci de justice sociale, que la dette a augmenté. Dire aujourd'hui que la dette est à charge de la population, c'est évident, les intérêts sont à charge de la population, nous sommes des contribuables, mais en même temps, ces intérêts sont à peu près deux fois, trois fois plus bas qu'ils n'étaient il y a 10 ans. Ce qui importe pour une dette publique, c'est qu'elle soit financée, c'est-à-dire que des gens prêtent de l'argent à l'État, les banques le font, les compagnies d'assurance le font aussi. Mais finalement, le véritable problème de tout ça, c'est quoi ? C'est le financement des pensions. Les pensions, c'est 43-45 milliards d'euros par an, c'est-à-dire à peu près 6 fois plus que le chômage. Et ce sont des dépenses qui sont normalement prélevées sur les travailleurs actifs, mais le problème auquel nous faisons face, c'est que la population âgée grandit et que la population en âge de travailler, en termes relatifs, diminue, avec une quantité, une qualité de travail qui baisse aussi. Et
c'est un déséquilibre pour les 15-20 prochaines années. Alors, on peut calculer ça, après ça va.
Voilà, le baby-boom, c'est le baby-boom en fait d'après-guerre qui a duré 20 ans, mais qui se transformait maintenant en baby-boom de 40 ans, puisque l'espérance de vie a augmenté de 20 ans. Donc la réalité, c'est qu'on a gardé un état très social, je crois, et que le problème ultime de cette dette publique, ce sont les pensions, pour lesquelles en fait il n'y a pas de solution à court terme.
D'accord, mais donc vous, sur les banques, vous avez répondu. Sur le fait que David Bestiou pointait, bon, la dette, c'est une chose, mais qui paye la dette ? Au fond, vous dites, David Bestiou disait, bon, on peut prendre des mesures exceptionnelles, on l'a déjà fait dans l'histoire, vous êtes historien de l'économie, vous le savez aussi, c'est vrai que Roosevelt l'a fait après la crise de 1929. Est-ce qu'à un moment donné, la solution, elle passera peut-être par là, par ce genre de mesures-là, pour rembourser la dette ? Parce qu'on sait bien qu'il va falloir quand même passer à la crise.
Mais d'abord, si on n'avait pas sauvé les banques, toute l'économie belge aurait été tombée en faillite.
Oui, c'est une question. Je parle sur les mesures exceptionnelles.
Voilà, mais on a fait ça en 1944. En octobre 1944, le ministre des Finances, Gut, a donc transformé la monnaie, a fait une grande confiscation. Est-ce que ça va apporter quelque chose ? Rien du tout, parce que dès le moment où ça arriverait, et c'est tout à fait hypothétique, eh bien, il n'y a plus un gramme de capital qui sera investi en Belgique. Imaginez que donc ça va toucher l'épargne de tous les particuliers, l'épargne des entreprises, et donc il n'y a plus d'épargne pour le financement de l'économie. Donc c'est un non-sens de croire ça. C'est la poudre aux yeux du PTB, c'est de croire qu'on peut résoudre un problème structurel par un prélèvement unique sur la monnaie. Aucun pays qui ne l'a fait n'y a réussi. David Bestiou.
Bien sûr, on doit s'attaquer au système même, hein, donc on en parlera tout à l'heure sur Marx, donc je ne suis pas en train de dire que c'est la solution miracle, je dis simplement qu'il y a d'abord le déficit et la dette s'est amplifié par cette crise économique, mais cette crise économique vient notamment de la gestion bancaire folle qu'il y a eu avant, et donc on est arrivé quand même à une explosion, on a pris des risques insensés, et on a mené un système économique quasiment à la faillite et on a demandé à la population de le financer. Ça, c'est la réalité des faits qui s'est présentée. Je l'ai bien dit, c'est pour les banques, mais aussi évidemment pour les conséquences de cette crise. Et deux, je pense qu'effectivement, c'est toujours la même discussion. C'est qui crée la richesse et de quelle manière. Donc chaque fois qu'on fait une ponction sur le capital, on nous dit on touche au cœur de la richesse, à la détermination. Mais qui crée la richesse ? On en discutera, mais la richesse, elle est créée par les travailleurs. Et donc, il y a des possibilités, il y a des richesses qui ont été créées les 50 dernières années de manière colossale. La question, c'est la répartition. Et aujourd'hui, on a des fortunes qui se sont... Et je comprends, on défend... Quand on gère les fortunes, on doit défendre la gestion des fortunes. Mais quand on est par rapport à ça, on doit pouvoir avoir le principe de défendre le fait que, oui, il y a des gens qui créent des richesses, ces richesses sont les travailleurs qui les produisent, et ça doit être réinjecté dans l'économie. Et aujourd'hui, le niveau d'inégalité est colossal, 1% des gens possèdent 99% des richesses, c'est colossal, on n'a jamais vu une telle inégalité, et on doit s'attaquer à ça, et là, on peut libérer des moyens, et on peut libérer des moyens qui peuvent alors être injectés dans l'économie, et pour des choses qui sont réellement utiles, et pas dans la spéculation, et d'autres choses comme ça.
Ah ben, je vous propose de continuer cette discussion, puisque